Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie, il est grand temps de reprendre notre lecture du Capital de Karl Marx. Que dis-je, il est temps? Il est l'heure de parler d'or.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Ah, oh, ben ça alors.
Regardez sous le lit. C'est pas là. Elle est là.
I've got 90,000 pounds in my pyjamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing like a newly minted pound. Everyone must hanker for the bunchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round.
De l'or à l'argent, de la folie des grandeurs au Monty Python, le programme est bien annoncé. Bonjour à vous Bruno Pinchard.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur et doyen de la faculté de philosophie de l'université Jean Moulin Lyon 3, auteur de Marx à rebours. Aux éditions Quimet, vous étiez venu nous parler d'être et temps de Heidegger à ce même micro en juin dernier. Vous voici maintenant face à un autre monument, le Capital de Karl Marx. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu ce texte?
Oui, je crois. C'était, me semble-t-il, en 1976, lors d'un séjour à la campagne. Et je me suis arrêté, je crois, au bout de 200 pages, écrasé.
C'est ça, il fait partie des livres qu'on n'arrive pas à lire jusqu'au bout.
Impossible. D'ailleurs, Marx n'a même pas fini son propre livre, donc c'était un exemple à suivre.
Et est-ce qu'en lisant ce livre, vous avez ressenti une forme de fascination?
Oui, un mélange de bonheur et de colère. Le bonheur était que je m'attendais à subir un endoctrinement matérialiste. J'ai découvert une écriture d'une complexité aux multiples résonances. C'était de la théologie, c'était du théâtre, c'était des entrées dans des usines sordides d'Angleterre, c'était des remarques totalement techniques sur la philosophie allemande. C'était un opéra. Et c'était l'époque où je m'intéressais aussi beaucoup à Richard Wagner. Et aussitôt, j'ai marié Wagner et Marx. Et j'en suis toujours là.
Pour mémoire, Karl Marx est né en 1818, mort en 1883. En 1867 paraît le premier livre du Capital. C'est le résultat de plus de 15 ans de travail et, au dire de son auteur, alors âgé de 49 ans, certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête des bourgeois. Le but? Définir ce nouveau mode de production qu'est le capitalisme, qui prend la forme d'une immense accumulation de marchandises dans le but de produire toujours plus de valeur. Le moyen, parvenir, au terme d'une analyse économique, philosophique et politique très précise, à identifier l'origine du profit, ce qu'aucun intellectuel ou scientifique avant lui, que ce soit Locke, Smith ou Ricardo, dont il se revendique, n'était parvenu à faire. C'est le sens des chapitres qui portent sur la plus-value, la fabrique de la plus-value, dont nous avons parlé hier avec Isabelle Garraud. En votre compagnie, Bruno Pinchard, nous allons aborder une question très différente. La question, celle que vous décrivez dans votre livre en parlant du capital comme d'un mythe. Vous dites, finalement, quand on aborde le capital, quand on lit le capital, on le lit comme un mythe. D'où ma question sur votre fascination face à ce texte.
Oui, parce que la mythologie a une vocation qui la distingue de la philosophie. La mythologie a un rapport fondateur à la totalité. Le capital se présente comme une totalité. Et c'était ce programme que j'ai reçu donc en 76 au milieu des affirmations, les premières grandes affirmations de la philosophie de la finitude et du triomphalisme de la finitude qui allait s'annoncer dans les années qui suivraient. Eh bien, je trouvais quelqu'un qui résistait et qui exigeait une saisie globale du fait humain. Et avant de la nommer, cette saisie concept, je l'ai reçue comme un mythe dans lequel nous étions appelés à être plus que des finis, mais des acteurs d'un système infini.
Vous avez bien conscience qu'il y a une contradiction, au moins une provocation de votre part, à qualifier de mythe un ouvrage qui se veut démystificateur.
Oui, parce que mon Marx est un Marx à rebours, vous le savez, vous venez de le rappeler.
C'est le titre
rappeler.
De votre livre en tout cas, oui.
Je veux dire par là que je pressens toujours deux forces à l'œuvre chez Marx. Il y a bien sûr le ton du manifeste qui demeure latent dans cette œuvre et qui d'ailleurs conclut le premier livre du Capital, ce qu'on pourrait appeler au fond un geste revendicatif. Et puis une mémoire colossale qui s'enracine dans l'Antiquité, dans une maîtrise admirable d'Aristote en particulier, et qui conduit jusqu'à un dialogue permanent avec Hegel, ce qui fait que il y a là un programme d'approfondissement qui, au fond, n'est pas du tout inscrit au cœur du manifeste. Et je lis toujours un Marx, au fond, dans un déséquilibre entre le militantisme et la puissance de synthèse. Mmh. Et une de mes idées, c'est que l'œuvre va s'achever par le triomphe d'une de ces deux pulsions, c'est-à-dire la pulsion d'approfondissement et de mémoire. D'où le fait que j'ai tendance à penser que l'engagement, l'effet actif, la fameuse praxis marxiste, n'est que l'écume d'un destin d'une toute autre ampleur.
Qui serait ?
La rétrospective de l'effet du monothéisme sur l'humanité.
Quel programme ?
C'est pas un petit programme, c'est pour ça que le livre est complexe. Je donne deux preuves très simples. Ça commence évidemment dans l'écho de la question juive, qui est la première émergence de cette forme de méditation. Et ça se concentre sur la question de la transsubstantiation, puisque vous le remarquez tout à l'heure... l'or qui sonne, c'est un...
Vous pensez à Louis de Funès qui fait teinter
ses
pièces d'or.
C'est une certaine façon d'entendre la toute-puissance d'un objet, l'incarnation d'une réalité et finalement le caractère omnicompréhensif d'un rite. Et donc, précisément, ce que l'Occident portait de plus précieux en lui, c'est-à-dire la transsubstantiation, c'est-à-dire le geste fondateur du christianisme.
Donc c'est peut-être l'argent en lui-même qui serait un mythe.
C'est l'argent en tant qu'il est un moment du monothéisme. Je pense qu'il est difficile de séparer ici ce que Marx appellera l'opium du peuple, mais dont il était au fond lui-même plein de vapeur, puisque, et d'ailleurs il jouait de cette résonance religieuse à chacune des grandes étapes de son œuvre. Et la Trinité, par exemple, est au cœur du Capital. C'est donc, à mon avis, une grande rétrospection sur les engagements religieux radicaux de l'Occident. Et à cet égard, c'est un livre qui les démythologise, mais en mobilisant toute la puissance, au fond, de révélation qu'il y avait dans les religions que je désigne. Et c'est pourquoi c'est un livre, au fond, strictement théologico-politique.
Voilà, et non pas religieux, mais bien théologique.
Théologico-politique.
Le même registre que celui à l'œuvre dans la théologie. Justement.
Absolument, c'est l'intelligence de Spinoza qui se développe sur de nouveaux objets.
Vous allez développer tout ça, notre compagnie, parce que c'est très dense et assez original comme position sur le Capital de Marx. Avant cela, donnons la parole à quelqu'un que vous connaissez bien pour l'avoir rencontré, pour avoir étudié avec lui et qui propose un portrait de Marx et du Capital de Marx comme étant celui d'une recherche d'unité entre la science d'un côté et la pratique de l'autre. Écoutez Althusser, c'était en 1976, l'année où vous avez découvert le Capital de Marx.
Et où je suis devenu l'élève de Louis.
Quelle année ?
Marx a donné au prolétariat, puisque c'est pour lui qu'il écrivait, il a donné une arme, qui est l'arme d'une théorie scientifique permettant de comprendre les grandes lois tendancielles du mode de production capitaliste, donc permettant de comprendre le cours de l'histoire dans le monde contemporain, bien au-delà des dates à l'intérieur desquelles il pensait. Avec Marx et à travers la pratique des organisations politiques qui ont été fondées, à travers la pratique du mouvement ouvrier, quelque chose a changé dans ce qu'on peut appeler la conception du monde. Un certain nombre de questions ont été éludées comme étant illusoires, d'autres questions ont été posées qui n'avaient jamais été posées. Et si l'on cherche ce que Marx a apporté peut-être de plus profond, c'est, je dirais, l'unité entre sa théorie scientifique et ses positions philosophiques, et cette unité est profondément politique. C'est ce que Marx disait lorsqu'il écrivait dans le Capital cette simple phrase « Mon livre représente une classe, le prolétariat ». Représenter une classe, c'est représenter ses positions. C'est par conséquent s'engager dans la lutte de cette classe. Mais c'est aussi fournir à cette classe de quoi développer cette lutte, des armes pour développer cette lutte, des armes pour s'organiser. C'est lier le destin de cette théorie à la lutte de cette classe. Et je crois que finalement, ce en quoi Marx est toujours actuel, c'est dans la conscience que les problèmes théoriques et les problèmes philosophiques du mouvement ouvrier sont liés à des problèmes politiques.
Bruno Pinchard, rejoignez-vous Althusser lorsqu'il affirme que le capital est une arme que Marx dépose entre les mains de la classe qu'il souhaite représenter?
Non, je ne peux pas m'engager dans ces suites. Ce qui me frappe en réécoutant la voix de Louis Althusser, cette voix un peu brisée, qui est assez prégnante pour ceux qui l'ont connue, c'est la mauvaise position de la question de la science. Je crois que ici, on entend au fond les travaux de l'épistémologie française, de Canguilhem, de Bachelard, et Althusser a l'impression de trouver un point fixe dans l'œuvre de Marx grâce à cette valorisation du scientifique comme tel. Mais moi, je ne crois en aucune manière à cette façon de fixer son objet. Je pense que l'objet capital est beaucoup plus instable que ce qu'il veut bien dire ici. D'ailleurs, c'est bien pourquoi l'idée d'une coupure épistémologique, comme il la propose, entre la science qui émergerait brutalement dans les thèses sur Feuerbach et puis les différentes esquisses idéalistes.
Alors ça, attendez, parce qu'on va essayer de pas semer l'attention de ceux qui ne connaissent pas Marx comme vous le connaissez.
Et là, on parle d'Althusser, d'ailleurs.
Oui, c'est ça, oui, mais la césure épistémologique, elle concerne Marx, qui serait à partir de 1845, et donc à peu près l'idéologie allemande, oui. Il y aurait une autre façon d'aborder son travail.
Voilà, et qui entrerait dans le matérialisme scientifique parce que il y aurait la découverte que la philosophie poussée à son accomplissement devient une pratique et une pratique révolutionnaire. Ce qui fait que Althusser a essayé de tenir deux positions qu'il rappelait à l'instant. D'un côté, il fait l'éloge du passage de la théorie à la pratique, qui est une opération bien identifiée en philosophie depuis Aristote ou depuis Fichte. Il n'y a rien de nouveau dans cette perspective. Et comme par hasard, il y aurait coïncidence quasi providentielle. À cet instant où vous n'êtes plus un interprète, mais un acteur de la révolution sociale, vous faites de la science. C'est-à-dire que vous accédez à un corps de principe qui vous permet de rendre raison de l'individu ou du contingent. Alors, évidemment...
Quand on s'engage politiquement, finalement, on continue à faire de la science.
On commence à en faire.
Qu'est-ce que faisait-on avant quand on ne faisait, entre guillemets, qu'écrire des livres?
C'est-à-dire qu'on interprétait, mais c'est absurde, puisqu'évidemment, le seul fait de se proposer de révolutionner le monde est aussi une interprétation. Donc, il y a là une mythification, mais alors cette fois-ci au sens non pas d'une mythologie globale, mais d'une idéologie extraordinairement simpliste, pensant que c'est parce que vous commencez à porter un drapeau rouge que vous allez être dans l'exactitude des phénomènes historiques réduits à leur épure scientifique. C'est absolument faux et enfantin comme façon de penser. Ce que je remarque, c'est que Althusser, au fond, ne pouvant plus tenir simplement le messianisme de la classe ouvrière, s'est bardé de la prétention scientifique pour justifier son double chemin.
Althusser parle de lui-même plus que de Marx, c'est ça que vous voulez dire?
En tout cas, il parle d'un certain déclin du mouvement ouvrier qui, pour pouvoir, au fond, après la guerre, maintenir le mouvement dans lequel il voulait entraîner les masses, a dit « En plus, nous avons la science ». Et ce mariage est, me semble, d'une imprécision intellectuelle très grande et très datée. Alors, il y a des choses merveilleuses chez Althusser. Je favoriserai à cet égard l'ouvrage collectif « Lire le Capital », car il a aussi cet aspect qui vient de sa tradition philologique et sérieuse et textuelle. Lisez lentement le Capital et vous verrez la complexité des plans qui s'y déroulent. Là, je ne peux être que profondément d'accord.
Là, vous citez Althusser quand vous dites ça.
Voilà, exactement. En revanche, je n'apporterai pas un soutien au caractère scientifique du matérialisme de Marx. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une intelligence de Marx, et que cette intelligence s'est emparée d'un certain nombre de modèles scientifiques qui étaient disponibles de son temps, par exemple la biologie, et très précisément la théorie des fossiles avec les différentes métamorphoses des animaux, le darwinisme, par exemple le calcul infinitésimal, qui était, il y avait une proximité merveilleuse entre Marx et Leibniz à cet égard, toute une suite de la chimie, l'histoire des techniques. Ça, ce sont des savoirs que Marx a la capacité non seulement à rassembler, mais à rassembler dans leur exactitude. C'est-à-dire qu'on est ébloui par la clarté avec laquelle Marx parle de ces différents corps de sciences. Mais c'est une chose de les rassembler, ce n'est une autre de penser que à cet instant se crée d'une façon, une instauration comparable à celle de Galilée. Galilée médite le déroulement ou le flux d'une boule sur un plan incliné, il crée la physique mathématique, et à cet instant, Marx, parce qu'il rassemblerait ses savoirs, créerait les conditions d'une science, science qui ne serait miraculeusement pas bourgeoise, mais elle serait prolétarienne. Là, on voit bien le dialogue avec le stalinisme et quand même la hantise de ce texte.
Donc, ce que vous dites, si je vous comprends bien, pour en terminer sur ce point, qui va nous conduire directement au suivant, c'est que pour vous, le Capital de Marx est un système philosophique plus qu'une arme révolutionnaire.
En tout cas, c'est un système philosophique plus qu'à la fondation d'une science. Et ce système philosophique peut être le déploiement, l'illustration d'un combat révolutionnaire, mais ne s'épuise pas. Comme tous les systèmes philosophiques, il y a une réserve philosophique, ce que j'appelais tout à l'heure la mémoire théologique de l'Occident, il y a une réserve philosophique qui permet d'aller plus loin.
Alors on va lire ensemble, enfin écoutez plutôt, mais invité à lire un extrait du Capital, puisqu'on est là pour ça. C'est un extrait de la postface de la deuxième édition allemande, janvier 1873, au Capital. Il faut le dire, Bruno Pinchard, que le Capital a connu beaucoup d'éditions, de rééditions, de traductions différentes, et donc à chaque fois autant de préfaces et de postfaces. Ici, ce texte, pour vous, est clé. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots avant qu'on l'écoute ?
Oui, c'est là qu'intervient la théorie du renversement. Marx se présente comme celui qui justement va inverser l'idéalisme de la tradition philosophique pour imposer un retour à une ontologie, au fond, antique, matérialiste, ou en tout cas réaliste. Et au fond, en libérant la puissance de l'inversion, il nous donne aussi d'autres clés, parce que pourquoi, à notre tour, nous serions pas à la situation d'inverser Marx ?
Alors, vous allez nous développer ensuite. Hein. Qu'est-ce qui s'inverse, nom de quoi ? Peut-être on peut inviter les auditeurs à faire attention à cette phrase, sur le fait que la philosophie serait en train de marcher sur la tête. L'inversion peut-être consiste à la remettre sur ses pieds. Écoutez.
Ma méthode dialectique, non seulement diffère par son fondement de la méthode hegélienne, mais elle en est l'exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. J'ai critiqué le côté mystique de la dialectique hegélienne il y a près de 30 ans, à une époque où elle était encore à la mode. Mais bien que, grâce à son quiproquo, Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n'en est pas moins lui qui en a le premier exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui, elle marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. Sous son aspect mystique, la dialectique devint une mode en Allemagne, parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. Sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires. Parce que, dans la conception positive des choses existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire. Parce que, saisissant le mouvement même dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui en imposer. Parce qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire.
Thank you.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la dialectique essentiellement critique et révolutionnaire, c'est forcément sur France Culture, en effet, notre série d'émissions consacrée au Capital de Karl Marx. Aujourd'hui, nous parlons de cette importance de la dialectique chez Marx, ce terme qu'il reprend alors qu'il préexiste largement, mais ici c'est directement Hegel qui est visé, Bruno Pinchard. Il nous faut définir ce qu'est la dialectique, ce serait l'objet d'un mois d'émission. Essayez en quelques phrases de nous dire de quoi il s'agit pour qu'on puisse comprendre l'enjeu de ce texte.
Si je suis provoqué comme ça, je devrais dire quelque chose. Alors, la dialectique est la méthode de la philosophie depuis Platon. Ensuite, la dialectique suppose que les termes d'une pensée soient examinés à partir de leur antagonisme. Les objets intellectuels se contredisent. Ça n'est pas d'ailleurs une invention ni de Hegel ni de Marx, et c'est toujours dans la pensée grecque tout cela. Ce face-à-face d'opposition dans les pensées, ou bien reste béant dans le tragique qui conduit à un doute, puisque si je me contredis, je vais douter. Et c'est ce qu'on appellera une dialectique qui s'arrête aux antinomies, c'est-à-dire un face-à-face entre deux pensées qui ne se meuvent plus l'une par rapport à l'autre. En revanche, si je les fais entrer dans la synthèse d'un produit intellectuel plus élevé, alors, qu'on l'appellera donc le concept, alors la dialectique n'est plus une antinomie, elle est ce qu'on appelle un surpassement ou une intégration. C'est-à-dire qu'il y a un concept plus fort, pour le dire en termes plus techniques, plus infini, qui surmonte le caractère fini des deux positions initiales.
C'est une manière de dépasser la contradiction.
Dépasser la contradiction, ce qu'on appelle une Aufhebung, c'est-à-dire un sursaut qu'on appelle spéculatif, puisqu'il consiste à changer de plan dans la concentration de la connaissance. Alors, Hegel pense que cette dialectique s'est accomplie dans la raison pure et qu'elle devient donc la puissance même de la raison. Elle est le nouvel avenir de l'Occident au-delà des limites du kantisme qui a une conception simplement antinomique de la dialectique.
Oui, pour Kant, il y a certaines choses que l'entendement humain ne peut pas connaître.
Voilà, il peut se les représenter comme un horizon, mais ne peut pas les connaître. Et donc, le kantisme...
Assigne des limites à la connaissance.
Donne à notre civilisation la borne de l'antinomie, tandis que, pour Hegel, nous avons un pouvoir qu'il appelle l'esprit, qui est capable de surmonter ces contradictions pour les porter à une synthèse supérieure. Marx reprend ce matériel, cet acquis intellectuel. Il participe au fond de la transgression des lumières qui est caractéristique de Hegel par rapport à Kant. Hein. Dépasser les antinomies, c'est aussi dépasser les lumières. Et il suppose que cette puissance de synthèse ne s'effectue pas dans l'esprit, mais dans les mouvements réels, ou plutôt dans la production de l'histoire par les sociétés. C'est-à-dire que le lieu, le substrat de synthèse est dans la société elle-même. C'est donc un socialisme, une sociologisation, en tout cas, une socialisation de l'esprit hegélien. Mais là, il y a une difficulté sur laquelle on tombe tout de suite, c'est que Hegel n'a jamais pensé que l'esprit était loin des choses ou que l'esprit se montrait un noyau qui regardait d'une façon méprisante l'histoire. Au contraire, pour lui, l'esprit ne se réalise à son tour et déjà dans son œuvre que comme histoire et au sein de la vie la plus intime des êtres humains. Ce qui fait que le changement proposé par Marx, qui semble un festin pour l'intelligence, il le disait tout à l'heure, hein, j'ai un fondement différent. En effet, son fondement n'est pas l'esprit, c'est la sociologie de l'habitat humain sur la Terre. Mais il disait, c'est l'exact opposé. Vous avez entendu cette phrase, l'exact opposé. Mais si je suis hegélien, je dis si c'est l'exact opposé, ça va appeler un jour venu une puissance de synthèse. Sinon, monsieur Marx, vous n'êtes qu'un kantien et vous reproduisez une antinomie qui se fige sur ces positions fixistes.
Être l'exact opposé de Hegel, c'est rester hegélien.
Bah, évidemment. Et c'est pour ça que ça finit par un éloge de Hegel qui est le plus beau qui, je crois, a jamais été écrit. Hein, les pouvoirs ont peur de Hegel. Ça, cette phrase est absolument extraordinaire. Les pouvoirs établis ont peur de Hegel parce que, en dénichant la puissance de la contradiction dans toute réalité, pas simplement dans l'esprit en un sens abstrait, en toute réalité, il programme la destruction des figures figées des sociétés. Donc l'hégélianisme est une puissance révolutionnaire, c'est d'ailleurs pourquoi elle dépasse les équilibres des Lumières.
Puissance révolutionnaire, à savoir ce à propos de quoi nous voulons faire la révolution, puisque la révolution engendrée peut-être par l'esprit hégélien est loin de ressembler à la révolution du communisme ou celle...
Alors voilà, ça c'est la puissance de destruction de l'hégélianisme conduit à l'État, tandis que la puissance critique de la dialectique marxiste conduit, alors faut-il le dire quand même, à la dictature du prolétariat. C'est-à-dire la dernière étape avant l'abolition de l'État. Simplement, comme vous le savez, nous avons vu la première phase, mais pas la seconde.
Regardons de plus près, puisque nous avons entendu ce texte interprété par Georges Clés, ce qu'il reproche à Hegel, car c'est fondamental pour comprendre la position de Marx dans le Capital. Il dit bien, pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, vous avez dit aussi l'esprit, est le démiurge de la réalité. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. En clair, Marx dit que Hegel part d'une forme d'idée pour l'ancrer dans la réalité, dans quelque chose de concret, ce que Hegel appelle le phénomène. Marx veut procéder à l'inverse et dire que c'est de la matière que va naître ensuite peut-être la conscience de l'homme. Et c'est ce qu'on peut appeler le matérialisme de Marx.
C'est vrai, mais remarquez la faiblesse du texte qui, malgré sa grandeur, dispose ou exhibe une faiblesse, c'est cette émergence brutale du cerveau. Que veut dire cerveau ?
Est-ce que... C'est le mot cerveau qui vous gêne.
C'est pas que ça me gêne, c'est que je m'en amuse. C'est-à-dire que, ou bien il y a un programme neuronal, ce sont des neurosciences qui sont programmées ici, ou bien par cerveau, il faut entendre une image, c'est-à-dire en fait la puissance de positionnement des êtres humains face à la nature. Et à cet égard, c'est un biologisme. Ou bien, cerveau veut dire simplement les représentations que les hommes partagent pour conduire ensemble leur vie politique et leurs échanges. Vous voyez, Marx est extrêmement puissant, mais si j'avais été, en lui tenant la main, si j'avais été Engel, je dis mais jamais cerveau. Ou alors, tu avoues que tu as un projet biologisant, réductionniste.
Mais est-ce que vous ne jouez pas avec les mots ? Est-ce que c'est pas une manière d'ancrer dans la matière, justement, la dimension vraiment matérielle et donc pourquoi pas biologique, ce que et c'est exactement cette démarche que Hegel n'a pas su mener de front, cette manière de s'opposer à Hegel.
J'entends bien, mais à ce moment-là, quelle matière ? Parce que il passe son temps à dire qu'il faut pas être dans le matérialisme bourgeois, c'est-à-dire un matérialisme de la matière, mais dans un matérialisme communiste ou un matérialisme, en tout cas dialectique, non bourgeois, révolutionnaire, c'est-à-dire au niveau des relations humaines. Ce qui fait que vous rendez compte que là, il y a un archaïsme, à tout le moins, ce cerveau, c'est la maîtrise, le matérialisme mécaniste du XVIIIe siècle qui fait un petit retour comme une petite souris, mais qui fragilise l'extraordinaire analyse de la puissance de la négation qu'il vient de proposer.
Alors qu'est-ce que c'est cette puissance de la négation ? Vous n'avez pas prononcé le terme de négation en parlant de...
C'est-à-dire que je ne veux pas surcharger toute cette affaire, mais la négation, ça vient des Grecs, là encore. C'est une analyse de ce que c'est qu'un jugement. Il y a des jugements positifs et des jugements négatifs. Il y a cette souffrance de la négation qui est l'absence. C'est Aristote qui a montré que la réalité reposait bien sûr sur la plénitude, mais aussi sur la privation. Et que donc la négation, c'est déjà l'encadrement d'une privation. Il y a un trou dans le réel. Et ensuite, la négation, c'est l'art de dire non, c'est-à-dire c'est une force qui se révolte ou qui s'oppose à un pouvoir qui se tient en face d'elle. Et donc la négation, c'est peut-être toute la capacité de l'humanité à se surpasser ou à se surmonter dans ses impasses.
Donc dans le cas de Marx, la négation, c'est ce qui conduit à la révolution.
Absolument. C'est la reprise d'une formule logique, la négation est un acte logique, qui devient l'acte même de l'histoire.
Et donc est-ce que Marx reprend à Hegel la dialectique au point de penser que l'histoire, si on parle de matérialisme historique, c'est la formule qui va de mise quand on parle du rapport de Marx à l'histoire, qu'en fait cette révolution va se faire d'elle-même, que c'est le processus dialectique à l'œuvre dans l'histoire, d'un point de vue matériel, qui va conduire à la révolution, auquel cas, les individus et même les sociétés sont absolument pas responsables de cette révolution.
Ce qui est très compliqué, c'est de comprendre effectivement la théorie du Parti communiste qui est insérée dans la pensée de Marx, c'est-à-dire d'une avant-garde du prolétariat. Comment comprendre exactement que quelques individus dotés des instruments de la dialectique peuvent conduire des masses encore assoupies à un réveil de classe et à une conscience de classe et conduisant à la submersion de l'État bourgeois. Parce que plus Marx va travailler, et c'est ça le résultat du Capital, plus le mécanisme devient automatique. Plus il appartient à une loi éternelle, sinon éternelle en tout cas, une loi immanente à l'histoire. Donc comment faut-il à la fois être un héros qui va militer, c'est le problème du militantisme, et en même temps il va y avoir un déterminisme conduisant à la contradiction interne du système bourgeois. Et là Marx est déchiré entre ses racines fichtéennes, c'est-à-dire ce qu'on appellera l'activisme, et ses racines spinozistes et hegeliennes qui conduisent à une conception globalement déterministe de l'univers. Et il ne tranche pas, il en meurt. C'est ça qui est admirable, c'est qu'il meurt de sa théorie.
Mais est-ce qu'il donne tort à la dialectique ? Puisque la contradiction ne produit pas une synthèse, au contraire, elle produit la mort de Marx.
Elle produit en tout cas un livre inachevé, et là on retrouve l'idée que je donnais au début. Nous sommes dans des mondes où au fond sont des hommes qui produisent des bibles, et c'est une bible inachevée.
Donc le Capital serait peut-être le meilleur démenti de la dialectique. Un dernier point sur ce texte, avant qu'on en aborde un autre, qui là aussi en découle vraiment logiquement, finalement, tout ce Capital. Vous parlez de système, et c'est vrai que chaque pensée s'agence de manière très systématique. Juste sur cette formule, la dialectique marche sur la tête. Ça veut dire qu'il y a ce renversement dont vous parliez, c'est bien celui-là, c'est essayer de faire précéder la matière sur l'idée et non l'inverse. Donc sortir de l'idéalisme allemand, sortir de l'idéalisme hegelien.
Absolument. Ce qui est formidable, c'est que derrière cette idée de retournement et de marcher sur la tête ou sur les pieds, c'est aussi la grande, très grande culture de Marx à l'égard de la Renaissance. Parce que qui a dit ça, mot pour mot, et dans des contextes brillantissimes, c'est Rabelais. Il y a deux types d'hommes, il y a ceux qui se tiennent sur la tête et ceux qui se tiennent debout. Il faut faire tourner sur leur axe, et c'est d'ailleurs la reprise d'un thème de Platon, l'homme arbre. Hein, ou l'homme racine. Vos cheveux vous enracinent dans le ciel. Ça, c'est la version où vous avez les pieds sur la terre. Mais si vous êtes tourneboulé au sens strict, vous avez les cheveux dans le sol et ce sont vos racines et vous n'êtes qu'un arbre. Et donc, Rabelais l'avait déjà, c'est pourquoi j'ai rendu dans mon livre tellement hommage à Rabelais, avait déjà pensé que l'acte de la philosophie dans sa perception la plus haute, c'était de faire tourner, dit-il, de 180 degrés les hommes, mais pas de 360, sinon ils deviennent des tonneaux et ils roulent vers la cave.
En clair, ce n'est pas l'homme qui est maître de ses idées, mais c'est le monde qui pense à travers lui.
Ah oui, ça c'est le seul sens que vous venez de dire, le seul sens que je respecte dans l'idée de cerveau.
On va changer de registre un instant pour illustrer une thèse très importante du Capital, qui désigne ici plus précisément l'argent comme une forme de substance que Marx qualifie d'automatique. On reste dans cette espèce de mythologie qui serait présente, qui serait à l'œuvre dans ce texte. D'abord, écoutez un extrait du Loup de Wall Street.
Je dois vous avouer que je suis incroyablement excité de faire partie de votre équipe. C'est vrai, les clients que vous avez sont absolument...
J'emmerde les clients. Ta seule obsession doit être le beurre dans les épinards chaque jour. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre dans la tienne.
Oui, mais si on peut leur faire gagner de l'argent en même temps, c'est avantageux pour tout le monde, c'est pas vrai?
Non. Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. Mm-hmm. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, il n'y a rien de réel. Tu piges. Mais... Écoute-moi bien. Mm-hmm. On ne crée rien. On ne construit rien.
Non.
Si tu as un client qui a payé un titre 8 dollars et que ce titre atteint 16, il est carrément super jouasse. Il veut le vendre et rapporter son putain de bénéfice à la maison, mais il ne faut pas le laisser faire.
D'accord.
Parce qu'alors, ce serait réel.
Oui.
Non, c'est quoi ta solution? Tu as une autre brillante idée. Ça fuse là-dedans. Autre situation, autre action. Pour réinvestir ses gains et gagner plus, il acceptera. Ça marche à chaque fois, parce qu'ils sont tous raides aggro.
Il faut que ça tourne. Tu me suis?
Que ça tourne.
Garde tes clients sur la grande roue. Et ça tourne. Le parc est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque année, chaque décennie, chaque putain de siècle. C'est comme ça. C'est la règle du jeu.
L'argent n'existe pas, c'est une idée qui rend fou et pour laquelle des gens sont prêts à mourir. Tout le système financier actuel repose sur cette idée. C'est le scénario du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, et c'est ce que dit à sa façon Karl Marx dans la deuxième section du premier livre du Capital.
Le capital est argent, le capital est marchandise. Mais en fait, la valeur se présente ici comme une substance automatique, douée d'une vie propre qui, tout en échangeant ses formes sans cesse, change aussi de grandeur et, spontanément, en tant que valeur mère, produit une pousse nouvelle, une plus-value, et finalement s'accroît par sa propre vertu. En un mot, la valeur semble avoir acquis la propriété occulte d'enfanter de la valeur parce qu'elle est valeur, de faire des petits, ou du moins de pondre des œufs d'or. La valeur se présente tout à coup comme une substance motrice d'elle-même, et pour laquelle marchandises et argent ne sont que de pure forme. Elle distingue en soi sa valeur primitive et sa plus-value de la même façon que Dieu distingue en sa personne le Père et le Fils, et que tous les deux ne font qu'un et sont du même âge, car ce n'est que par la plus-value de 10 livres que les 100 premières livres avancées deviennent capitales. Et dès que cela est accompli, dès que le Fils a été engendré par le Père et réciproquement, toute différence s'évanouit et il n'y a plus qu'un seul être, 110 livres. La valeur devient donc progressive, argent toujours bourgeonnant, poussant et comme tel capital. Elle sort de la circulation, y revient, s'y maintient et s'y multiplie, en sort de nouveau accrue et recommence sans cesse la même rotation. A, A prime, argent qui pond de l'argent, monnaie qui fait des petits, money which begets money. L'argent engendre l'argent.
L'autre démenti qu'on peut apporter à l'idéalisme hegélien avec Marx, c'est l'absence totale de logique. Finalement, Marx est fasciné par le caractère irrationnel que la raison prend avec l'économie de marché. C'est une logique. La logique économique, dit-il, est complètement irrationnelle, voire même est devenue folle, Bruno Pinchard.
On est devant deux textes, aussi bien le film que le texte de Marx, d'une telle densité que je voudrais juste...
Il nous reste 15 minutes, prenez le temps.
Quelques éclats de ce qu'on vient d'entendre. Il faut que ça tourne, vous avez entendu cette phrase. Tellement juste et qui reprend cette différence entre la rotation à 180 degrés et la rotation à 360 degrés. Et au fond, d'une certaine façon, j'en appelle qu'à faire tourner Marx, vous l'avez bien compris. D'autre part, j'étais frappé par l'arrivée si fine, si exacte du mot occulte, vous avez remarqué, car c'est pas simplement irrationnel, c'est occulte, c'est-à-dire qu'il y a une magie, il y a une idolâtrie qui produit une magie, et c'est donc la nature magique de la modernité, qui, loin d'être le lieu d'une technoscience capable de maîtriser ses principes, est possédée, au fond, par des formes inférieures de théologie, et nous retrouvons ce que je vous disais sur la nature profondément théologique de l'analyse. Donc cet occultisme de l'argent, vous dites, devient immaîtrisable. En effet, c'est une des caractéristiques de la société bourgeoise. Elle invente des algorithmes qui ne peuvent plus être arrêtés. La première de tous étant le calcul infinitésimal, qui, dès le XVIIe siècle, devient la grande puissance de l'intelligence européenne et qui, ensuite, se transforme sur les domaines économiques en particulier et produit la structure du monde telle que vous êtes en train de la restituer. Alors, ce caractère immaîtrisable n'est pas hors toute raison, puisqu'il y a un moyen chez Marx d'en donner la nature, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est parce que il y a un clivage originaire des corps sociaux entre ce qu'on pourrait appeler les propriétaires et les opératifs, que se créent ces effets de l'exploitation que nous sommes en train de décrire. C'est pourquoi il y a à la fois la constatation d'une magie immaîtrisable, et il y a la tentative de lui donner un concept organisateur dans la lutte des classes. Voilà les deux gestes que Marx opère dans les quelques lignes que nous venons de voir. Enfin, vous avez remarqué la reprise blasphématoire, cynique, des schèmes trinitaires pour expliquer le mécanisme de l'argent. Et comme je vous le disais antérieurement, c'est quand même une très grande psychanalyse des adhérences théologiques de l'Occident que le Capital. Et c'est cela qui le rend, à mes yeux, totalement pertinent encore aujourd'hui.
Oui, Marx dit que la valeur distingue en soi sa valeur primitive et sa plus-value de la même façon que Dieu distingue en sa personne le Père et le Fils.
Et ce qui est très curieux, c'est que le Christ avait dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Or, le geste de blasphème techniquement blasphématoire consiste à déporter de l'un sur l'autre, et c'est-à-dire d'utiliser le modèle théologique pour interpréter les trésoreries de César. Et c'est ce que nous venons d'entendre. C'est ça la transgression marxiste à son degré le plus élevé.
Transgression, et en même temps, de même que Pascal, pour s'adresser aux libertins, emploie leur vocabulaire pour mieux mener son projet de, disons, apologétique, enfin, presque de prosélytisme, peut-être que Marx ici emploie aussi un vocabulaire dont il sait que ses lecteurs vont être familiers.
Je crois que c'est plus qu'un dispositif rhétorique. Je pense que c'est une auto-réflexion de ce qui est en nous disponible comme histoire de notre civilisation.
Donc c'est quand même une manière de prendre en compte le destinataire, de s'ancrer dans une certaine culture.
Oui, et de se reconnaître soi-même à un moment de cette destination.
Alors que signifie de comparer l'argent à une substance automatique ? Automatique, on le voit avec l'exemple de la poule aux œufs d'or. Finalement, on ne connaît pas l'origine, c'est comme une poule qui pondrait des œufs d'or et dont on se saisirait de ses œufs sans pouvoir vraiment déceler le mystère. C'est pour ça que vous parlez de magie, hein, de fait de l'origine de cet or. Mais pourquoi l'argent serait une substance ? Au contraire, l'argent est une espèce de prétexte, de support d'une idée. L'argent n'est qu'une idée, c'est ce que disait l'extrait du Loup de Wall Street.
Oui, mais si vous êtes formé à la tradition hegelienne, vous savez très bien que la vérité de la substance, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la substance devient simplement un foyer de relation. Et à cet égard, il n'y a plus de différence entre son caractère substratique, substance et substrat, et le caractère intégralement relationnel de l'idée. Donc la substance devient idée. Et il n'y a pas de perte quand je passe de l'un à l'autre. C'est simplement l'accomplissement où, comme dit encore Hegel, le savoir devient simplement sa propre méthode. La substance n'est rien d'autre que sa propre méthode. Et sa méthode, c'est la mise en relation.
Donc il n'y a plus de substance, en fait.
Vous n'avez pas le droit de le dire comme ça. Vous pensez encore de manière en entendement. Vous parlez d'entendement.
Pourquoi ? En logique marxiste, c'est ça ?
Non, mais en logique dialectique, l'idée est la vérité de la substance. Et parce que elle a transformé en réseau de relations le substrat de la substance. C'est donc, on pourrait plutôt dire, c'est une substance magnifiée. Mais magnifiée au prix de la détérioration de la terre, de la perte de la liberté des individus et de l'exploitation intégrale des masses par ce processus.
C'est quand même l'utilisation d'un vocabulaire ou d'une rhétorique, pour le coup, qui demande énormément de connaissances et de savoir-faire pour pouvoir déceler l'intention, le projet. Ce livre n'avait pas pour vocation d'être entre les mains des révolutionnaires eux-mêmes.
C'était insensé comme idée. D'ailleurs, c'était le grand problème du Parti communiste de faire des collections d'explications du Capital afin de donner aux militants l'impression d'accéder à la science marxiste. Mais vous le voyez, reprenons encore cette idée de science. C'est effectivement une science, j'en suis absolument persuadé. Mais c'est une science spéculative, c'est-à-dire que c'est une science qui appartient à la puissance libre des idées. Et en aucune manière, une science métrique, quantitative et mathématisable comme celle que vous trouverez dans la physique.
C'est-à-dire que Marx, ici, fait avant tout œuvre de philosophe. Il s'inscrit dans une histoire de la philosophie, il a des interlocuteurs philosophes, à savoir Hegel. Et finalement, c'est ça l'intérêt du Capital, selon
Bruno Pinchard. Et sa puissance, parce que vous voyez, au fond, l'ouvrier qui avait ça entre les mains, il ne pouvait absolument rien y comprendre. Mais il sentait un souffle.
Même le philosophe, c'est quand même un texte d'une technicité
effrayante.
Très, très importante.
Il y a un souffle, il y a une pugnacité qui vient précisément du fait que c'est spéculatif et philosophique. Parce que la philosophie, c'est l'intelligence avec la puissance. C'est ça la grande différence.
Reste qu'il paraît difficile de penser, du coup, l'endroit où se rejoint ce projet philosophique ou scientifique hors norme. Et pour revenir à ce qu'on disait d'Althusser au début, l'engagement pratique, Marx qui s'engage aux côtés des révolutionnaires anglais ou du Parti communiste, ça devrait faire sourire.
Et oui, moi ça me fait sourire, mais ça, c'est-à-dire que le processus est très simple. Une fois que vous avez des théories comme celle-là, il faut maintenant trouver des martyrs. Et une fois qu'il y a des martyrs, après il y a des fidélités aux martyrs. Et ça explique une
Pourquoi
grande partie.
Pourquoi il faut trouver des martyrs ?
Il faut que des gens, comme disait très justement Kojève, il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de sang versé. Donc le moment clé, c'est le moment où le capital a commencé à faire verser du sang. Et là, c'est devenu le foyer d'une religion et qui a donc des fidélités à l'égard de ces martyrs. Et le militantisme est simplement la fidélité au sang versé.
C'est-à-dire que Marx aurait, avec le capital, créé une forme de chapelle, lui qui dénonçait la religion
comme étant
l'opium du peuple, de cathédrale.
De cathédrale, là, vous permettez-moi, plus grand. D'église.
Et donc il aurait lui-même reproduit ce qu'il dénonçait par ailleurs.
Mais évidemment, à un degré, c'est ça qui est très puissant, c'est qu'à un degré d'adéquation de la réalité historique, jamais atteint. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un coup de force, c'est l'émergence d'un sens. Il a fait émerger le sens de la modernité.
En identifiant l'origine de la plus-value, par exemple ?
Par exemple, la substance automatique, c'est une certaine façon de comprendre la modernité qui est incomparable.
D'autant qu'il est absolument son contemporain à ce moment-là. Il décrit des phénomènes qui se passent en même temps que lui.
Et c'est surtout qu'il est prophète.
Il est prophète.
Bah, oui, parce que si vous voulez...
Mais c'est vous qui êtes mystique, en fait, Bruno Pinchard, c'est pas le texte.
Je prends très au sérieux l'accusation anti-mystique de Marx, ouais. Et je lui demande d'être un peu plus lent sur cette affaire.
Ah mais dites-nous en plus, prophète.
Bah, il est prophète au sens où, regardez le film de Scorsese dont nous avons entendu l'extrait tout à l'heure. En 1867, le degré de dématérialisation du capital était infime par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc la véritable réalisation de la substance automatique, c'était pas en 1867. Et c'était même pas en 1917 quand Lénine prend le pouvoir. C'était même pas au moment du New Deal, c'est à partir des années 70, et c'est à partir de l'informatisation de l'économie que Marx a absolument raison. Donc, il faut quand même comprendre que le diagnostic qu'il propose avait au minimum 150 ans d'anticipation, et que c'est maintenant qu'il est vrai. D'ailleurs, la preuve, on en fait des films.
Donc, la crise des subprimes, c'est finalement la meilleure illustration du capital de Marx.
Et l'endettement des États et tous les processus auxquels nous assistons sont... parfaitement adéquat à cette intelligence de Marx sur la réalité qui vient.
Donc, pour le coup, ça donne plutôt envie de se plonger dans le capital et voir comment, d'un point de vue théorique et scientifique, il formalise ce que nous vivons aujourd'hui.
Absolument, c'est un livre qui est devant nous, j'en suis tout à fait persuadé.
Mais pas pour faire la révolution, mais pour comprendre.
Pour comprendre et avoir cette joie si particulière que décrivait Spinoza, non pas pleurer, ni rire, mais comprendre.
Et vous pensez qu'on peut vraiment comprendre en lisant le capital ?
On peut au moins comprendre qu'on ne comprend pas, ce qui sera déjà un pas en avant très intéressant.
Ça, voilà une réponse de philosophe qui ne satisfera pas tous ceux qui sont victimes de du système aujourd'hui. Alors, un dernier extrait avant de nous quitter, Bruno Pinchard, vous l'avez peut-être vu, enfin je vous pose la question, avez-vous vu le film de Raoul Peck sur le jeune Marx ?
Oui, je l'ai vu, il m'a rendu heureux.
Ça, c'est le
même s'il parlait beaucoup de misère, en vérité.
Voici un extrait où où est mise en scène la rencontre entre Marx et Proudhon, pour la première fois à Paris.
Proudhon, je te présente Marx, les annales franco-allemands.
Bonjour.
Marx.
Enchanté. Ma femme, Jenny.
Enchanté.
Bonjour.
Grün me traduit les annales.
Ah bon ? Alors il doit le trahir.
Je crois, jeune homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute.
Dites la contradiction.
C'est vrai, vous êtes hegelien.
Je suis surtout matérialiste. Vous ne m'avez pas répondu sur la propriété.
J'en ai donné une définition, je crois.
Et le vol ? Vous le définissez comment ?
Faut-il vraiment le définir ? Comme chacun sait, c'est la violation du bien d'autrui.
Excusez-moi, mon français...
Votre français est très beau.
Merci. Alors, la propriété, le bien, c'est donc pareil. Vous dites la propriété et le vol. Quand je vole la propriété de quelqu'un, je vole quoi alors ? Le vol.
Vous faites semblant de ne pas comprendre, je suppose.
Karl ne fait jamais semblant. Ce qui veut dire, c'est que votre formule est une image. Une belle image, mais comme on dit chez vous, une image qui se mord la queue.
Votre français à tous deux, décidément, est excellent. N'est-ce pas, Grune ?
Avec Olivier Gourmet dans le rôle de Proudhon. Alors, Bruno Pinchard, ici, on a la parfaite illustration de l'espèce d'absurdité à laquelle peut conduire la dialectique hegelienne.
Je dirais que, en tout cas, ce film fait émerger la belle figure de Proudhon et donne lieu à des échanges qui sont quand même d'un certain niveau, on vient de le vérifier. Proudhon, évidemment, a cette faiblesse de vouloir remplacer, au fond, l'ordre bourgeois par un ordre mutualiste et de se méfier à l'extrême des prises de pouvoir révolutionnaires. Marx, beaucoup plus rigoureux dans l'analyse des faits historiques, pense que la violence est le moteur de l'histoire, et leur face-à-face, qui est quand même un face-à-face absolument tragique. Là, on s'amuse, hein, mais c'est quand même tragique dans le fond. C'est
Pourquoi
le face-à-face entre la violence et ce qu'on pourrait appeler la réconciliation proudhonienne. La réconciliation proudhonienne conduira à l'utopie du socialisme français dans toutes ses apories, et la fascination de Marx pour la violence conduira à des outrances de violence dont on peut à peine encore mesurer l'ampleur.
Merci en tout cas Bruno Binchard d'être venu nous parler de Marx aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre Marx à rebours. On aura compris pourquoi il est à rebours hein, aux éditions Quimet. Vous étiez venu parler d'Heidegger aussi, d'Heidegger à Marx. Vous avez de nombreuses casquettes. Je sais que vous présidez également la société dantesque. Peut-être aurons-nous plaisir de vous recevoir.
Mais Marx cite Dante tout le temps et avec une précision qui me confond.
Vous nous en direz plus très bientôt. Merci à vous Bruno Binchard.
Car tu dis trop de banalités. Je veux t'idéaliser, je vais te faire insonoriser. Je vais te faire des ignifugés pour que mon amour puisse te brûler. Je veux t'idéaliser, je vais te faire des ignifugés. Baptiser pour que mon fiel ne puisse t'épargner. Je veux t'idéaliser, je vais te faire des mitridatiser. Je vais te faire araignéiser pour que tu me prennes dans tes filets. Je veux t'idéaliser, je vais te faire araignéiser. Je veux t'idéaliser, je vais te faire dérupturiser. Je vais te faire peintre en bâtiment pour qu'un beau jour tu me couvres de blanc. Toi mon idéal vivant, je vais te faire peintre en bâtiment.
Comment désidéaliser Marx ? C'est Cosette qui chante Idéalisation. Pour terminer cette émission, lisez Le Capital de Karl Marx, en tout cas le livre premier aux éditions sociales, chers auditeurs. Et puis également, je vous conseille la lecture de la correspondance des lettres d'amour et de combat entre Karl et Jenny Marx, qu'on trouve à la petite bibliothèque Payot, hein, chez Rivage, qui sont des trésors de beauté. J'essaierai d'en lire quelques extraits cette semaine pour vous les faire découvrir. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, on va écouter un peu de musique aujourd'hui, puisque les éditions Albin Michel nous font un très beau cadeau, ça va vous plaire. C'est la publication de textes inédits du philosophe-musicien Vladimir Jankélévitch. Oui, ça vous plaît. Texte écrit entre 1929 et 1983 et rassemblé sous le titre de L'Enchantement musical. Et à les lire, on préférerait même se taire, écouter ce que Jankélévitch appelait des morceaux de temporalité enchantée, morceaux entre le silence et la parole, qui en disent plus que le premier et la seconde. Mais, et c'est bien la question de la musique soulevée par les philosophes, ces morceaux enchantés, que nous disent-ils ? Que nous dit la musique selon Jean Kelevitch? Nous dit-elle une pensée, un langage, un objet ou au contraire rien de tout cela? Et que nous dit par exemple le Requiem opus 48 de Gabriel Fauré que l'on entend, que le philosophe évoque ici dans cet ouvrage? Très rapidement, on pourrait dire que les pensées de la musique se caractérisent par deux interprétations. Soit elle la ramène à une entité autre qu'elle-même et qu'elle exprimerait, ou elle la rappelle à elle-même et tente d'en dégager une essence. Mais pour Jean Kelevitch, ce n'est ni l'une ni l'autre de ces tentatives que l'on trouve, car la musique de Fauré, par exemple, est la mort, selon lui. Elle est la mort, mais pas parce qu'elle exprime la mort ou nous mène au néant, mais parce qu'elle retire toute matière, toute substance, tout corps, parce qu'elle allège. Ni quelque chose, ni rien. La musique se fait donc légèreté, un presque rien, un je ne sais quoi. Autre compositeur que chérissait Jean Kelevitch, Liszt, et plus précisément ses pièces, Années de pèlerinage, auxquelles il consacre de très belles pages. Alors comment saisit-il ces pièces musicales? Comment parvient-il même à les saisir si la musique allège, si elle n'est pas rien, mais presque rien, si elle est un je ne sais quoi? Charme, mystère, inexprimable, infini, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent chez Jean Kelevitch quand la parole prend le relais de la musique, comme si le langage ne faisait que redoubler l'indéfinissable, celle des impressions glanées au long d'un voyage en Suisse et en Italie, comme on vient de l'entendre avec Liszt. Charme, impression, mystère, finalement, pourquoi vouloir saisir la musique? Pourquoi vouloir lui donner une pesanteur? Eh bien, c'est peut-être la question que nous pose ici Jean Kelevitch. On ne pouvait clore cet enchantement musical avec Jean Kelevitch sans avoir entendu son adoré Debussy. Pas de décor trop appuyé, de paysage trop précis, de bruit trop réel. Seulement le pur plaisir des sons qui s'envolent et nous saisissent, qui nous poussent à la surprise et non au savoir.
Merci Géraldine, c'est vous qui nous faites un cadeau en nous faisant écouter ces trésors et en nous parlant de Jean Kelevitch aujourd'hui. Le livre, c'est donc
L'Enchantement musical. C'est des textes inédits parus chez Albin Michel. L'édition est établie par Françoise Schwab avec la collaboration de Jean-Marie Brun et Liane. Très bonne préface de Françoise Schwab, justement.
Merci Géraldine. Je vous propose, une fois n'est pas coutume, qu'on reste avec Debussy. On n'a pas fini d'explorer la mer. Mais je me dois quand même de terminer cette émission et de rendre l'antenne, non sans avoir remercié David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Marie Aubert, vous-même évidemment Géraldine Mosna-Savoie, Claire Perriman-Holt, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Hubert et Emmanuel Morzinkan qui étaient la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le capital de Karl Marx. Demain, nous parlerons du fétichisme de la marchandise et c'est Florent Nicodème qui viendra vous en parler. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, nous vous donnons également rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc sur France Culture, mais d'ici là, restez à l'écoute.